Il existe une discipline qui s'intéresse aux animaux dont l'existence n'a pas été prouvée de manière irréfutable. Son nom est la cryptozoologie. Autant le dire tout de suite, la cryptozoologie n'a pas franchement bonne réputation auprès de la communauté scientifique, qui la considère souvent avec beaucoup de réserve. Et pourtant, des scientifiques commencent à poser un autre regard sur le travail de certains cryptozoologues qui essayent de retrouver donc des animaux inconnus dans une démarche la plus rationnelle possible. La Tête au Carré vous propose donc de faire connaissance avec cette discipline en compagnie de mes deux invités, Michel Ballot et Benoît Grison. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue Michel Ballot, c'est vous le chercheur en cryptozoologie. Vous travaillez donc depuis plusieurs années sur un animal qui habiterait les rivières d'Afrique centrale. Son nom est le Mokele Membe, surnommé le dernier dinosaure. Vous allez nous raconter comment vous menez vos recherches. Vous avez publié un ouvrage à la recherche justement du Mokele Membe qui est publié aux éditions du Trésor. Benoît Grison, vous êtes biologiste et sociologue des sciences et vous travaillez au LabCos, qui est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive et sociale de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous nous expliquerez comment vous percevez la cryptozoologie et pourquoi elle vous intéresse. On va se retrouver dans quelques minutes avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent en direct donc sur ce thème, franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis bien sûr, une nouvelle semaine de questions scientifiques avec le quiz de la Tête au Carré tout à l'heure en compagnie de Florence Porcel. Cette émission est réalisée par Violaine Ballet, dossier préparé par Louis Chevillard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le lundi, la semaine commence avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez aujourd'hui sur la mission Mars One avec une publication du MIT qui pourrait faire réfléchir les candidats de cette télé-réalité du futur.
On en a souvent parlé l'année dernière dans l'émission de ce projet néerlandais très sérieux imaginé par Bas Lansdorp. Envoyer à partir de 2025 40 colons terminer leur vie dans une base martienne médiatisée. Depuis 2012, 200 000 personnes se sont portées candidates et aujourd'hui, après les premières phases de sélection, il n'en reste plus que 705 passionnés exactement, ou rêveurs, comme vous voulez, qui depuis la semaine dernière ont dû être très sollicités par leurs proches, tant l'étude du MIT sur la faisabilité technique du projet est inquiétante. La conclusion tient en une phrase, et c'est son auteur Sidney Do qui vous la donne.
Nous disons aujourd'hui que la mission Mars One, telle qu'elle est décrite, et en nous basant sur leur affirmation qu'aucune nouvelle technologie ne sera nécessaire, est infaisable. Beaucoup de nouvelles technologies seront nécessaires. Nous n'affirmons pas qu'ils ne pourront pas le faire, mais simplement que cela prend du temps de développer et de tester de nouvelles technologies.
Alors, l'équipe de Sydney au MIT est une habituée de ce genre de prédictions, puisqu'ils travaillent depuis 10 ans avec la NASA pour expertiser leur programme et leur mission spatiale. Pour eux, deux points majeurs sont bloquants dans les plans avoués de Mars One, la culture des plantes qui serviront de nourriture et surtout la gestion des quantités d'oxygène qu'elles dégagent, mais aussi le remplacement des pièces de la base martienne sans ravitaillement fréquent ou même possibilité d'acheminement d'urgence. Mais plus encore, c'est l'organisation de la mission en général qui pose problème à Sydney.
Dans un monde parfait, vous devez tester toutes vos nouvelles technologies sur Mars bien longtemps avant d'y envoyer des gens. Et c'est le gros défi d'une mission en aller simple. Vous avez besoin que ces technologies fonctionnent sur place pendant au moins 50 ans. En gros, pour le reste de la vie des participants. Et si vous voulez faire ça bien, vous devez les tester pendant au moins 50 ans avant de les tester avec des gens.
Alors Axel, évidemment, votre chronique risque de ne pas réjouir notre collaboratrice Florence Porcel, qui fait partie, on l'a souvent dit, des quelques Français qui sont encore en course pour le départ.
Et j'ai parlé de Florence à Sydney et de l'image aussi véhiculée par le projet dans l'imaginaire du grand public. Malgré ses prédictions, il reste enthousiaste, mais prend ça très au sérieux. Écoutez-le.
Nous sommes tous très impatients d'explorer Mars et nous voulons tous voir un jour des gens vivre et prospérer sur cette planète. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore compris ne serait-ce que tous les risques auxquels il faudra trouver des solutions. Donc, je dirais à Florence d'être prudente quand quelqu'un lui dit qu'il a réglé tous les problèmes et qu'il est prêt à envoyer des gens là-bas. C'est dangereux. Et il est important d'être patient, car le moindre problème avec le programme Mars One pourrait être catastrophique et remettre en cause l'idée même d'une exploration de Mars. C'est un sujet sensible avec lequel il faut être extrêmement prudent.
En fait, ce qu'il espère pour Florence et pour la colonisation de Mars, c'est que la mission soit retardée et qu'on parle peut-être un jour de la fougue des premières intentions martiennes.
Voilà, en attendant, on retrouvera Florence sur le plancher des vaches tout à l'heure avec le quiz scientifique à la fin de l'émission. Merci Axel.
Rien.
À lundi prochain. Animaux inconnus et pour certains déjà très célèbres. On parle de cryptozoologie dans un instant dans La Tête au Carré. Denis avec la voix de Blondie sur France Inter.
La Tête au Carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Une discipline sulfureuse aujourd'hui dans La Tête au Carré, puisque nous nous intéressons à la cryptozoologie dont le but est de découvrir des animaux dont l'existence n'a pas encore été prouvée de façon irréfutable. Pour en parler, je reçois le chercheur en cryptozoologie Michel Ballot et le biologiste et sociologue des sciences Benoît Grison. Et vos questions arrivent déjà nombreuses sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Michel Ballot, donc vous avez publié aux éditions du Trésor un récit d'aventure autour d'un animal africain inconnu, puisque cela fait 10 ans maintenant que vous consacrez votre temps à la recherche de cette bête dans le bassin du Congo. 10 années de collecte d'informations, de témoignages auprès des populations locales pygmées. Et un travail donc qui illustre bien le sujet de cet après-midi, cette cryptozoologie. À quel moment les animaux mystérieux sont entrés dans votre vie ? Comment ça s'est passé pour vous au départ ?
J'étais encore au lycée, je crois bien, et j'ai eu la chance de rencontrer le père de la cryptozoologie, le docteur Bernard Avelmans. C'est en 1977 que j'ai fait sa connaissance jusqu'à la fin de sa vie en 2001. Donc de longues années de recherche historique, bibliographique, ce qui m'a permis ensuite de partir au sol dans le bassin du Congo pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, mes recherches se poursuivent grâce à une fondation parisienne, le Comptoir Général. Et avec le comptoir général, nous allons par la suite, pour préparer l'avenir des recherches, des expéditions, mener un programme de sciences participatives, c'est-à-dire nous invitons des gens à venir avec nous à la recherche de cet animal, entre autres.
Ouais, donc voilà. Vous employez le mot de science participative pour justement essayer d'introduire votre discipline dans le domaine des sciences, ce qui est loin d'être le cas encore aujourd'hui. Hein.
Ah oui, effectivement, c'est-à-dire que la cryptozoologie n'est pas encore rentrée dans les manuels de zoologie. Mais historiquement, certaines espèces animales qui ont été découvertes, en particulier au XXe siècle, ont mis des années à rentrer dans nos manuels de zoologie. Je pense bien sûr à l'okapi, au varan de Komodo, au Gorik des Montagnes. Et récemment, en 1994, grâce à un chercheur anglais, le Saola, qui a survécu aux milliers de bombardements au Nord-Vietnam.
Et ça, on le doit à la cryptozoologie, la découverte de ces espèces
là, oui, que vous aux citez. Chercheurs en cryptozoologie qui, de par leur travail sur le terrain, ont fait avancer la science et ont démontré que finalement, la zoologie n'était pas statique, mais en réalité, une science quand même évolutive.
Bon, mais pour l'instant, vous n'êtes pas invité dans le club scientifique, hein, on peut dire
les choses comme ça. Pas encore, j'espère un jour, peut-être.
Ouais. Guillaume demande d'ailleurs sur franceinter.fr si la cryptozoologie est enseignée à l'université. On en est loin. Hein.
Non, elle a été enseignée à Chicago dans les années 80 par le docteur Macal, qui a fait pas mal d'expéditions au Congo. Et ensuite, maintenant, non, il n'y a pas d'enseignement théorique de la cryptozoologie actuellement dans les universités.
Oui. Un mot quand même sur cet animal, le Mokele Membe, parce qu'on va en parler beaucoup avec vous dans un instant. C'est vraiment cet animal qui vous motive depuis maintenant plusieurs années. Vous espérez bien pouvoir mettre la main dessus. Pour en dire un mot déjà aux auditeurs, c'est quoi, une sorte de petit dinosaure?
Non, surtout pas. C'est certainement pas un dinosaure, parce que le terme dinosaure a été surtout mis en avant et médiatisé dans les années 80 par les expéditions américaines. Mais le Mokele Membe n'est très certainement pas un dinosaure. Il s'agit très probablement d'un gros mammifère inconnu ou peut-être d'un reptile. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore dressé complètement la carte d'identité de cette espèce, bien entendu. Ouais.
Animal aquatique ou semi-aquatique, hein, déjà pour donner des informations sur ce portrait robot. Benoît Grison, vous êtes le représentant de la science derrière ce micro aujourd'hui.
C'est lourd, c'est lourd à porter.
Quel rapport entre les neurosciences et la psychologie cognitive que vous enseignez à l'université et la cryptozoologie alors?
Oui, j'entends bien votre question. Mathieu, ce qui m'intéresse, parce que dans le domaine des sciences cognitives, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'anthropologie cognitive. Comment des populations catégorisent les choses dans leur environnement, notamment les animaux, les plantes. Je m'intéresse aux ethnosavoirs, donc je m'intéresse à l'ethnozoologie. Et à mon avis, la cryptozoologie est un bon objet pour l'ethnozoologie, c'est-à-dire croyances, mythes ou ethnosavoirs fondés sur certaines espèces rares ou encore inconnues, c'est de l'ethnozoologie. Donc c'est de l'anthropologie cognitive et ça m'intéresse. Mmh. Voilà la cohérence en fait. Et puis je suis biologiste de formation.
Ça. Alors évidemment, il y a un lien avec la biologie animale là pour le coup.
Bien sûr.
C'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui vous touche aussi dans
cette discipline. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est l'articulation nature-culture, si vous voulez. Et jusqu'à quel point des ethnosavoirs, des savoirs traditionnels sur la nature, dans des populations, notamment chasseurs-cueilleurs, peuvent être utilisés pour enrichir la zoologie. Parce que c'est ça l'objectif supposé de la cryptozoologie. C'est pas de dire, il y a de nouvelles espèces à découvrir, ça on le sait très bien. Hein, parce qu'il y a un minimum 10 millions d'espèces sur notre planète bleue. C'est, est-ce qu'on peut découvrir des espèces le plus souvent de grande taille sur la base des savoirs traditionnels?
Oui, et c'est tout le problème d'ailleurs.
C'est tout le problème.
C'est ce que disent les scientifiques.
Jusqu'à quel point on peut s'y fier.
Voilà. Exactement. La preuve du témoignage par rapport à la preuve irréfutable du fossile, par exemple.
Voilà, là où des cryptozoologues parfois arrivent à être beaucoup plus convaincants, c'est quand ils trouvent des poils, on y reviendra. Alors parfois, qui se révèlent être des poils le plus souvent, dans 95% des cas.
Le Yeti, par exemple, il y a beaucoup de poils.
On peut en parler, il y a beaucoup de poils d'ours. Quand ils trouvent des empreintes, parce que parfois, quand elles sont relevées dans de bonnes conditions, elles sont analysées. Donc, ou quand ils trouvent des cornes ou une peau, ce qui est arrivé avec le Saola au Vietnam en 1992-1994. Il y a d'abord eu des témoignages recueillis par John McKinnon, et ensuite des cornes, une peau, et enfin le spécimen. Pour fixer les choses, le Saola, c'est une sorte de gigantesque chèvre à allure d'antilope, qui en soi était assez surréel dans la morphologie, parce que ça aussi, c'est un problème. Souvent, les descriptions des témoins, quand elles sont recoupées, que les témoins ont l'air sincères, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, elles peuvent paraître extraordinaires, mais malheureusement, pour nous, ou heureusement, la nature n'est pas souvent notre imagination.
Ouais, et c'est ce qu'on
et
va
les
voir,
descriptions d'ornithorynques ont été récusées en leur temps.
Ouais, Michel Ballot, c'est ce qu'on verra avec vous, puisque vous travaillez principalement donc avec les pygmées qui habitent les régions que vous fréquentez à la recherche de cet animal. Et qu'effectivement, dans ces cultures, on sait bien, il y a beaucoup de croyances autour bien des sûr. Animaux et qu'il faut faire la part des choses, ce qui doit être très compliqué pour vous. Vous nous en direz quelques mots dans un instant. Le problème, effectivement, c'est que la cryptozoologie cristallise aussi tout un tas de croyances et d'individus assez farfelu, donc c'est quand même très difficile pour vous de vous déclarer cryptozoologue aujourd'hui.
Ah oui, il faut avoir une méthodologie dans le travail qui est proche de la méthodologie scientifique. C'est la raison pour laquelle j'ai la chance d'avoir quelques alliés, Benoît Grison, mais aussi quelques paléontologues aussi du Muséum d'histoire naturelle, et d'autres scientifiques dans le monde entier, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de faire la part des choses, parce que vous avez aussi toute une catégorie de personnes qui ne font que recopier ou déformer nos recherches, voulant les médiatiser. Et pour nous, c'est très mauvais. On l'a vu durant certaines années avec le Loch Ness, où effectivement, il y a eu beaucoup de chercheurs sur le Loch Ness, et il y a eu beaucoup de canulars qui finalement ont été très néfastes aux recherches d'éventuels animaux dans ces lacs d'Écosse. Donc on doit être très méthodique dans nos recherches et dans nos conclusions.
Eh bien, le Loch Ness, puisque vous en parlez, en voici une illustration.
Bonjour.
Bonjour.
Travaillez dur, grand-père.
Non, pas tant que ça. Vous savez, ici, c'est un pays très sain. Il y a même des fois, des semaines, où on est sans rien faire. Et voilà qu'il y en a trois en un seul.
Que s'est-il passé?
Un père et ses deux garçons, à ce qu'on dit. On les a trouvés qui flottaient sur le lac. On raconte que leur barque a chaviré par une forte houle. J'y crois pas, moi.
Est-ce que vous voulez dire que c'était le monstre?
Sacré bon sang. McLarning a vu le visage des enfants au moment où on les sortait de l'eau. On aurait dit des petits vieux. Ils sont morts de frayeur, c'est sûr.
C'est incroyable.
Ouais. Vous semblez être de braves gens. Si vous passez des vacances en Écosse, allez au Loch Lomond ou au Holy Loch. Mais surtout, n'approchez pas du Loch Ness.
Voilà, la vie privée de Sherlock Holmes, oui, de Billy Wilder en 1970, avec le Loch Ness, le monstre, évidemment. Oui, ça, c'est un des personnages emblématiques de la cryptozoologie.
Tout à fait, et ça n'a absolument rien donné. Et le paradoxe, c'est que ça n'a rien donné par rapport aux ambitions cryptozoologiques, mais ça fait avancer l'écologie du Loch.
C'est-à-dire?
Parce qu'il y a tellement de gens qui, soit, voulaient déconstruire l'idée du monstre du Loch Ness et montrer que c'était impossible d'un point de vue écologique, d'un point de vue chaîne alimentaire. Puis aussi, d'anciens true believers, des gens qui y croyaient fort, et qui ont fini par être déçus, mais continuent à travailler sur l'histoire naturelle du Loch. Oui. On a pu démontrer des tas de particularités écologiques du Loch qui sont très intéressantes. C'est quand même un des plus grands lacs d'Europe occidentale. Mais on a pu montrer aussi qu'il y a autour de 20 tonnes de biomasse, que comme le monstre est censé être une petite population de vertébrés de quelques mètres, avec 20 tonnes de biomasse, vous pouvez même pas nourrir un mâle d'orque qui serait capturé dans le Loch. Voilà.
Ouais. Mais, donc ça veut dire qu'il faut le rayer de la liste
il faut
des animaux de la cryptozoologie.
Par contre, c'est un cas intéressant parce que cet acharnement sur le Loch a produit, comme disent les épistémologues, un gain épistémique, un gain en connaissance. On connaît des choses sur l'écosystème maintenant et c'est très très intéressant comme écosystème. C'est un écosystème pauvre mais qui arrive quand même à se maintenir. Ouais. On connaît des choses sur des phénomènes physiques dans le Loch. Il y a une couche d'eau profonde qui est extrêmement froide et puis une couche d'eau à température variable au-dessus et ça crée des vagues qui sont apparemment sans vent, qui vont à contre-vent, qui déplacent des objets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de témoins.
Donc, on a appris plein de choses.
Oui, il y a beaucoup de témoins qui ont pu être influencés par ces phénomènes physiques, que ça soit de vagues dites sans vent ou de réfraction atmosphérique à la surface du Loch et y croire. Pour moi, le symbole de ça, c'est la communauté monastique du Loch. C'est des bénédictins, ils sont là depuis plus de 150 ans, ils sont divisés. Il y en a la moitié qui a vu le monstre et la moitié qui dit aux autres, on va être charitable puisqu'on est chrétien, mais franchement, ça n'est pas sérieux.
Et ça a bien développé l'économie aussi de la région, évidemment, parce que c'est à peu près le seul lac qu'on voit des files de bus qui attendent pour voir peut-être l'animal. Michel Ballot, donc vous êtes d'accord, vous, ça fait vraiment partie des créatures qu'il faut absolument enlever de la liste
des
animaux à découvrir.
Bien entendu, l'intérêt du Mokelemembe par rapport au contexte du Loch Ness.
Donc ça, c'est la créature que vous recherchez, vous.
C'est que nous avons des témoignages historiques qui datent du tout début du XXe siècle, et qui sont très pertinents, très intéressants à étudier. Et ce sont des témoignages qui se situent du nord Congo jusqu'au nord Gabon, donc sur une distance très importante, avec toujours la même forme animale qui est décrite.
Alors, c'est-à-dire, donnez-nous des éléments, justement, premiers témoignages.
Des éléments sur les témoignages. Bon, le premier élément probant que nous avons date de 1913. Il a été recueilli par un officier allemand, alors que pendant le Cameroun était sous domination allemande à l'époque. Et c'était un chercheur scientifique, capitaine de l'armée allemande, qui vivait chez les Pygmées. Et c'est la première fois que les Pygmées ont donné à un occidental le terme Mokelemembe. C'est-à-dire, ils ont dit à ce capitaine, voilà, nous allons te montrer des traces de passage du Mokelemembe.
Ce qui veut dire ?
C'est la première fois dans la littérature que le mot Mokelemembe apparaît.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, historiquement, les Pygmées qui travaillaient avec ce capitaine n'avaient pas... il n'y avait pas, si vous voulez, de médiatisation comme il peut y avoir aujourd'hui. Et ce capitaine a vu des traces, etc. etc. Et puis tout au long du XXe siècle, on a les militaires, les missionnaires qui ont vu effectivement des traces, qui ont eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas seulement des témoignages indigènes, entre guillemets, qui peuvent quelquefois prêter à confusion parce que la tradition orale est très importante en Afrique et quelquefois elle peut être déformée, mais nous avons aussi tout un lot de témoignages d'occidentaux, de chercheurs qui ont vu de visu cet animal ou une partie de cet animal, si vous voulez. Donc là, on est dans un contexte complètement privilégié, pas du tout médiatisé. Il n'y a pas d'autocars qui viennent dans ces régions-là. Mmh. Donc, ce sont des témoignages que nous prenons très au sérieux.
Alors, il y a une question de Jean-Paul, parce qu'évidemment, on se dit comment aujourd'hui, c'est sa question, on peut encore trouver des espèces inconnues, surtout de cette taille, notre planète étant tellement parcourue dans tous les sens, photographiée et disséquée. C'est-à-dire qu'il y a encore des territoires qui sont mal connus et où pourraient se cacher des bêtes aussi grosses.
Bien entendu, parce que quand vous allez dans ces zones qui sont immenses, ce sont des zones qui ne sont pas du tout peuplées, qui sont entièrement recouvertes de forêts vierges, souvent forêts vierges montagneuses, sur des centaines de kilomètres carrés, qui sont bien entendu avec des voies fluviales, beaucoup de voies fluviales traversent ces forêts. Et donc, bien entendu, des animaux semi-aquatiques, même de grande taille, peuvent y vivre. À titre d'exemple, lors de ma dernière expédition, avec les personnes du comptoir général, il y a un éléphant qui est passé à quelques mètres de nous, on ne l'entendait pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces forêts, vous pouvez avoir un éléphant, un gros animal qui va vous sentir, qui ne va pas bouger, mais que vous ne verrez pas, puisque vous avez une visibilité à quelques mètres seulement.
Ouais, Benoît Grison, alors ces bêtes de grande taille qui seraient encore inconnues des biologistes, des zoologistes.
Ça, on en découvre depuis 60 ans chaque année un certain nombre.
De grande taille des bêtes de grande taille.
Oui, par exemple, les dernières, par exemple, nous avons un tapir amazonien qui vient d'être découvert. Nous avons dans une rivière brésilienne un nouveau dauphin d'eau douce, bien distinct du fameux dauphin rose amazonien qui, pense-t-on, a divergé il y a 2 millions d'années. Nous avons Cercopithec soleil qui a été découvert à la fin des années 1980 du siècle dernier, donc en Afrique de l'Ouest. Nous avons tout un tas de cervidés au cœur de la forêt dense du Vietnam, qui ont été découverts d'ailleurs par la même équipe que celle qui a découvert cette chèvre aberrante, là, le Saola. En fait, ce qui pose problème de nos jours, c'est pas de se dire qu'on peut découvrir encore de grands vertébrés, mais bien sûr, dans des zones de biodiversité maximale, par exemple dans ce qui reste de la biodiversité indonésienne qui se réduit de jour en jour, en Amazonie, ou dans la forêt dense des pluies africaines, comme l'étudie Michel. Ce qui pose problème, c'est jusqu'à quel point on peut faire confiance en des témoignages et des connaissances traditionnelles.
On va en parler avec vous, évidemment.
Autrement, les conditions de possibilité de découvrir encore des grands animaux, elles existent.
Le calmar géant, ça fait partie aussi des dernières créatures découvertes, alors qu'on pensait que c'était un animal mythique.
Bien entendu. Il a alimenté le mythe du Kraken, qui est une sorte de dragon aquatique maritime scandinave composite. Il n'y avait pas que le calmar géant qui nourrissait cette légende pendant des siècles, avant qu'on le découvre au milieu du 19e siècle, d'abord par des échouages à Terre-Neuve.
Allez, on se retrouve dans un instant et vous répondrez au message des auditeurs. Et puis on va faire un peu connaissance quand même avec ce Mokelemembe. Franceinter.fr et les réseaux avec le hashtag l'attaque.
Aime-moi, oh, si tu veux que mon bonheur pour
Adrien Gallo avec Crocodile sur France Inter.
La tête carrée. Sur France Inter.
Voilà, la cryptozoologie avec mes invités, le chercheur Michel Ballot, le biologiste et sociologue des sciences Benoît Grison, vos messages franceinter.fr très nombreux et à la recherche du Mokele Membe, donc aux éditions du Trésor. C'est le livre que vous publiez Michel Ballot. Beaucoup de messages donc des auditeurs. Pierre nous dit ceci, selon l'UICN, près de 17 000 espèces de plantes et d'animaux sont très fortement menacées d'extinction. Dans ce contexte, quel besoin de poursuivre une chimère, des légendes lorsque bientôt il sera impossible d'observer un rhinocéros blanc. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je réponds simplement que dans ma vie de tous les jours sur le terrain, en Afrique, je vois l'éléphant de forêt en particulier être massacré à très grande échelle. Et je pense que l'espèce de l'éléphant de forêt, qui est aujourd'hui une espèce à part entière par rapport au grand éléphant de savane, va disparaître d'ici 10 ans. Il n'y en aura plus. Bien entendu, du fait du trafic d'ivoire. Alors, il y a aussi, il y a quelque chose d'antinomique dans nos recherches, c'est qu'en réalité, comme votre auditeur le souligne, il y a, selon l'UICN et le VVF, de très nombreuses espèces qui vont disparaître. Votre auditeur parle du rhinocéros blanc en particulier en Afrique du Sud, en Afrique de, enfin, Botswana et compagnie, rhinocéros noir, etc., etc. Mais De l'autre côté, finalement, on découvre quand même des animaux. Pourquoi ? Eh bien, Benoît Grison, tout à l'heure, a parlé de l'espèce de tapir qui a été découvert en Amérique du Sud. Mais cela aussi, c'est à cause de la déforestation. Parce que à cause de la déforestation, les animaux vont plus se montrer. Ils vont trouver de nouvelles niches écologiques.
Donc, ils vont essayer.
Ils vont essayer, oui. Bien entendu. Donc, d'un côté, on a une alarmante disparition des grandes espèces animales en Afrique en particulier. Et puis de l'autre, comme l'a souligné Benoît tout à l'heure, eh bien, on trouve quand même de nouvelles espèces parce qu'on veut bien les rechercher. Deuxièmement, parce qu'ils trouvent, ces espèces essayent de trouver de nouvelles niches écologiques. Et puis, la déforestation fait malheureusement en sorte que les animaux essayent de vivre dans d'autres endroits.
Benoît Grison, oui. Là-dessus.
Écoutez, il y a deux choses. D'une part, il y a ce qu'on appelle la sixième extinction. Et on est, semble-t-il, dans la sixième extinction qui est liée à l'homme, contrairement aux précédentes. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel rythme ça va se poursuivre. Les modèles les plus pessimistes disent qu'en 2100, la moitié des espèces vivantes auront disparu. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a, en fait, des organismes qui sont beaucoup plus vulnérables à la disparition, les plantes, les coléoptères qui sont très localisés sur certains végétaux, etc. Bon, ça c'est une chose, mais il y a encore de l'espoir en termes de découvertes, bien sûr. On a pu montrer que dans des hotspots, comme on dit en bon franglais, de biodiversité comme la Nouvelle-Guinée, des équipes, quand elles passent 6 mois, peuvent multiplier par 1,3-1,5 le nombre d'espèces décrites. Quant au bon jugement de valeur qui est mis à propos de notre ami, là, vous savez, si sous prétexte d'érosion de la biodiversité, on n'a plus qu'à tirer l'échelle, à plus s'intéresser à la nature. Or, le Mokele Membe, s'il existe, serait un organisme intéressant, certainement pas un dinosaure. Et ben, je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas sa quête, Michel, d'autant plus qu'il est très impliqué précisément dans la protection de la biodiversité dans cette grande zone du fleuve Sangha.
Voilà. Qu'est-ce qui vous motive, au fond, Michel Ballot, dans cette quête effrénée, parce que vous allez plusieurs fois par an donc, dans le bassin du Congo, rien n'indique que vous allez vraiment trouver cet animal au cours de votre vie. Et pourtant, vous persistez.
Alors, au départ, le noyau dur de mes recherches, c'était effectivement le Mokele Membe. Et avec le contact avec les populations locales, avec les parcs nationaux, avec les éco-gardes, eh bien, mon travail s'est un peu amplifié vers une protection, et en particulier sur une protection très accrue de l'espèce de l'éléphant de forêt. Du gorille, moins maintenant, parce que les populations locales mangent moins de gorilles qu'auparavant, mais surtout l'éléphant de forêt. Et puis aussi, nous nous sommes impliqués avec nos équipes sur la vie des pygmées, cette ethnie qui va aussi petit à petit tendre à perdre ses identités culturelles.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui nous dit, quand vous parlez de science participative sur le Mokele Membe, plutôt une agence de voyage déguisée pour promener des naïfs, dit cet auditeur. Les pygmées spécialistes de la chasse et des plantes n'ont jamais trouvé d'empreinte de cette bestiole, mais attendent les touristes avec impatience.
Alors, je réponds à votre auditeur que Au départ, lorsque j'ai commencé dans cette zone, il y a de nombreuses années, j'étais tout seul. Ensuite, il y a eu des gens qui sont venus m'aider, qui m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de votre émission, je travaille avec le comptoir général à Paris. Et ce comptoir général m'aide à mettre en place avec des scientifiques une science participative. Alors, les gens que nous allons emmener...
Mais tout ça, ça se monnaie. C'est de l'argent, c'est du business, on est d'accord.
C'est du business, oui et non, parce que les gens qui vont venir avec moi vont participer à l'aide aux communautés. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont mettre dans ce voyage, avec nos équipes, va permettre à aider les parcs nationaux, va permettre à aider les villages pygmées. Donc attention, ce n'est pas du business. C'est une véritable science participative, c'est-à-dire que vous voulez venir demain avec moi, grâce à votre voyage, à votre participation, vous allez pouvoir donner pour l'aide, par exemple, au braconnage contre les éléphants, ou pour aider des pygmées.
Bon, on ne va pas passer trop de temps sur l'aspect business.
Vous aurez
quand même quelques profits, évidemment, liés à ces expéditions, mais évidemment.
Ces profits vont effectivement aux parcs nationaux. Mais ça, on ne peut pas rentrer, c'est trop dans le détail.
L'épreuve de l'existence de cet animal, pour l'instant. Alors, on entendait la chanson Crocodile tout à l'heure. On voit des photos de traces dans votre livre qui feraient penser à des pattes de crocodile, quand même, sur le sable.
L'épreuve, aujourd'hui, nous avons des, comme le rappelait tout à l'heure Benoît, nous avons des centaines, d'abord, de témoignages oculaires qui se sont succédés au cours à peu près d'un peu plus d'un siècle. Mmh. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons des traces.
Donc, il y a une photo, effectivement, on voit des traces sur le sable.
Des traces qui ont été analysées par des scientifiques de renom qui n'ont pas pu dire à qui appartenaient effectivement ces traces. Nous avons donc...
Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont les traces d'un animal inconnu. Ça peut être un animal très rare.
Voilà. Un animal inconnu. Définitif. Ça peut être un varan géant, parce que dans cette zone, il existe le varan du Nil. Mais vu la profondeur et la grandeur des traces, ça peut être un varan géant, d'une taille gigantesque.
Donc lourd.
Très lourd. Donc, c'est la deuxième série de preuves que nous avons, c'est-à-dire des traces. Mm-hmm. Et puis, malheureusement, nous avons peu de choses à côté de ça, seulement des beuglements d'animaux inconnus que nous avons entendus, effectivement.
Mais il n'y a pas d'enregistrement ?
Non, parce que, si vous voulez, quand nous entendons ces beuglements, c'est très rapide. C'est-à-dire, vous êtes sur une pirogue, vous avez le bruit du moteur... on entend quelque chose, on n'a pas le temps de mettre les enregistrements, etc., en marche. Mmh. Alors, ces preuves sont intéressantes, mais aujourd'hui, grâce à la science et à la technique, nos équipes, nous avons maintenant des caméras pièges qui sont nos yeux lorsque nous ne sommes pas là.
Ouais. Et grâce... pour l'instant, il n'y a pas d'image.
On a des parties, mais on a des parties d'images, mais qu'on n'a pas pu pour l'instant dévoiler parce qu'on ne peut pas.
On
ne peut pas vis-à-vis des scientifiques.
Il n'y a pas de preuve. Et c'est tout le problème d'ailleurs, Benoît Grison.
Vis-à-vis des scientifiques, il faut une image précise, pas un morceau d'image.
Il faut une preuve scientifique. Le témoignage ne suffit pas.
Mais évidemment, ça reste dans une zone grise en fait, le Mokele-Bembe. Là où Michel a pour lui des atouts et des arguments, c'est que c'est une zone biotique très vaste qui n'a pratiquement pas été fréquentée par les scientifiques depuis la Belle Époque. Donc les années 1900 du siècle dernier. C'est une croyance très ancienne et qui a été attestée même dès le XVIIIe siècle par un des premiers missionnaires, un jésuite au Congo. Ok, c'est une chose. Qu'il y ait une certaine crédibilité de l'existence d'un animal inconnu dans ces zones, c'est une chose. Mais par contre, bien entendu, les témoignages, c'est quelque chose de fragile. Et en plus, quand ils ne sont pas récents, liés à la reconstruction mnémonique. Et d'autre part, bien entendu, il faut aussi savoir que les populations dans ces régions vivent également dans un univers religieux et métaphysique où il y a des entités surnaturelles.
Voilà, qui distinguent bien la réalité et le mythe.
Voilà, apparemment, ils distinguent bien ça comme un animal. Mais ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus.
Certains mais ce n'est pas une preuve de son existence.
Mais bien entendu que non, bien sûr.
Alors, comment vous faites,
il est dans une zone grise,
par rapport à ces témoignages que vous avez des pygmées qui racontent de très belles histoires et qui sont persuadés, d'ailleurs, souvent des histoires qu'ils racontent.
Pour compléter ce que disait Benoît, je tiens à dire que les pygmées sont de remarquables observateurs de la forêt.
Bien sûr, oui.
Donc, ils connaissent tout.
C'est-à-dire, grâce à eux, vous pouvez aller dans la forêt.
Sans
vous perdre.
Sans eux, on ne survit pas en forêt. Et en réalité, ils connaissent bien parfaitement les plantes, ils connaissent parfaitement les animaux. En ce qui concerne le Mokelemembe, il parle de l'animal qui domine la forêt, c'est-à-dire qui se situerait en haut de la chaîne alimentaire de ces régions. Du reste, on a beaucoup de témoignages de zones où cette soi-disant espèce, parce que je reste toujours... cette soi-disant espèce, à un moment, vivait avec les hippopotames, et les hippopotames ont totalement disparu de ces zones parce qu'il y a, il est en haut de la chaîne alimentaire. Il serait en haut de la chaîne alimentaire. Moi, effectivement, je suis toujours très, très réservé sur un témoignage qu'on me donne. Et souvent, plusieurs années après, je reviens vers le témoin. Je lui redemande qu'est-ce qu'il a vu.
En quelle langue vous parlez ?
Alors, soit en français, soit avec
un traducteur.
Mais généralement, chez les jeunes pygmées, les jeunes savent parler français, ou alors avec un traducteur pour les anciens.
Allez, on va écouter la voix donc de cet homme, Bernard Velmans, que vous avez bien connu, qui est considéré un petit peu comme le père de la cryptozoologie. Il va nous parler d'un animal qui a beaucoup compté pour lui, c'est le Yeti.
Monsieur Bernard Velmans était à côté de moi, aux côtés de Sir Edmund Hillary, qui nous ramenait un soi-disant scalp de Yeti. Et monsieur Velmans vient aujourd'hui nous dire... Ce scalp était un faux. Alors, monsieur Velmans, maintenant, croyez-vous toujours à l'existence de l'abominable homme des neiges ?
Oui, ça me paraît incontestable. Ce n'est pas parce qu'on fait des faux Vermeer que Vermeer n'a pas existé. Ce n'est pas parce qu'on fait des peaux de léopard en nylon que le léopard est un mythe. Toutes les autres preuves, témoignages personnels, traces de pas, excréments qui ont été analysés, il y a même une main momifiée sur laquelle il y a d'ailleurs des contestations. Enfin, toutes ces preuves restent.
Irez-vous un jour à la chasse à l'homme des neiges ?
Je l'espère.
Voilà, Bernard Velmans, qui était un grand ami d'Hergé, hein, il faut le préciser, parce que c'est lui qui lui a inspiré Tintin au Tibet, et qui lui a donné les informations.
Oui, tout à fait. Voilà. Et qui a influencé beaucoup de naturalistes actuels. Moi, j'ai pu discuter avec Franz de Waal, qui est un grand fan des livres de Velmans. Ouais. Ils ont au moins fait fonctionner l'imaginaire scientifique. Et puis, Velmans, c'était quelqu'un de très rationnel. Vous voyez, par exemple, on parle aujourd'hui de faux poils de Yeti. Il avait déjà démonté ça dans les années 60. Après, ça ne veut pas dire qu'il avait toujours raison, hein, bien entendu.
Mais il y a des scientifiques, justement, qui ont fait des recherches très récentes sur les poils, justement,
du supposé
Yeti. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des scientifiques qui travaillent dessus aussi.
Oui,
hein.
Et qui appartiendraient, les 10 poils, à un ours inconnu. Mais là où on est vraiment dans la science, c'est qu'on a tout de suite de la controverse. Il y a un spécialiste du génome de l'ours qui dit « Je demande à voir, parce qu'ils disent que cet ours inconnu serait apparenté à un ours polaire fossile qu'on connaît par l'ADN de ses os. Or, moi, j'ai étudié cet ours fossile et je ne retrouve pas la même séquence. Autrement dit, est-ce que ces poils de Yeti renvoient vraiment à un ours inconnu ou est-ce que c'est une erreur méthodologique, une erreur d'analyse du génome ? On ne sait pas. Est-ce que le Yeti serait vraiment un ours ignoré ? Peut-être. Parce que, bien entendu, il y a beaucoup de témoignages très ursins, comme on dit, du prétendu homme des neiges, d'ailleurs qui se déroule en forêt. Mais au moins, quand on est à ce stade-là, à analyser des pièces anatomiques, qui sont des vrais poils d'animaux qu'on a du mal à identifier et qui ont des traces d'ADN, on est dans le registre de la science.
Est-ce que la cryptozoologie, demande Bernard, intéresse les créationnistes, les témoins de Jéhovah, eux qui sont enclins à nier l'évolution des espèces ?
Là, en tant que sociologue et science, je peux vous dire que oui, c'est tout à fait à la marche, parce qu'il y a beaucoup de gens pas sérieux du tout qui s'occupent de cryptozoologie, contrairement à notre ami Michel. Mais il y a quelques créationnistes qui s'y intéressent, mais parce qu'ils n'ont pas compris la théorie de l'évolution. Mmh. Ils pensent que si certains animaux fossiles auraient survécu, ce qui est plus probable que moins, parce que la plupart des espèces ont vécu dans le passé, ont disparu quantitativement, ils pensent qu'à ce moment-là, cette survivance prouverait le fait qu'il n'y a pas eu évolution. Alors que pas du tout, l'évolution est buissonnante. C'est pas parce que nous descendons des grands singes qu'on n'a pas continué à évoluer et que les gorilles et les chimpanzés n'ont pas continué à évoluer de leur côté. Donc, non seulement c'est stupide, idéologique et pas scientifique, la position créationniste sur la cryptozoologie, mais ils n'ont pas compris que ce qu'on appelle un fossile vivant, ce qui n'est pas un bon terme d'ailleurs, n'est pas la preuve d'une non-évolution. C'est la preuve que l'évolution n'est pas une chaîne linéaire, mais un arbre buissonnant en trois dimensions.
Larry demande aurait dit Darwin. Pourquoi la cryptozoologie semble plus sérieuse quand elle s'occupe d'animaux aquatiques ? Est-ce grâce justement au calmar géant qui a longtemps été classé comme un animal mythique, idem pour les serpents de mer ?
Oui, parce que le calmar géant, le serpent de mer font un peu partie de l'inconscient collectif, quoi. Hein. C'est le Nautilus, c'est 20 milieux sous les mers. Oui. En réalité, c'est vrai que les découvertes dans les océans, dans les années à venir, vont certainement nous apporter beaucoup de surprises, mais aussi dans les découvertes dans les fleuves africains, dans les fleuves sud-américains, comme l'a rappelé tout à l'heure Benoît, avec une nouvelle espèce de dauphin de fleuve. Et il faut, finalement, dans nos recherches, il faut que nous soyons très prudents, faire avec les témoignages des populations locales et travailler avec notre méthode assez cartésienne, en réalité, pour avoir une méthodologie qui se rapproche de la science pour que nous soyons effectivement aidés par les scientifiques.
Benoît Grison, très vite pour terminer, il y a des scientifiques qui s'intéressent vraiment à la cryptozoologie aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, mais uniquement quand il y a des pièces anatomiques. Mmh. Et alors là, c'est le cas de
Sykes. On a vu Copins, par exemple, la semaine dernière. Mmh. Est-ce qu'il est intéressé par cette discipline
ou
pas ?
Oui, parce qu'il refuse, comme il dit, de fermer la porte. Moi, j'en ai discuté avec lui, de fermer la porte à des possibilités de découverte sur la base de savoir traditionnel.
Merci beaucoup à tous les deux. Un récit d'aventure, donc Michel Ballot à la recherche du Mokele Membé aux éditions du Trésor. Merci beaucoup à vous également, Benoît Grison, d'être venu dans La Tête au Carré.
Merci.
L'Aube de l'Ail, extrait de son nouvel album, Brian Ferry sur France Inter. Et la semaine reprend avec Florence Porcel qui nous a concocté pendant le week-end les nouvelles questions du quiz scientifique.
Ouais,
bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Et on accueille deux nouveaux candidats.
Bonjour Isabelle, bonjour Rémi.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Isabelle, vous êtes à Belmont-d'Azergues.
Oui, c'est ça.
C'est dans le Rhône, c'est ça ?
Exactement, pas très loin de Lyon.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle ?
Je suis interne en médecine.
Bon, et face à vous, il y a Rémi, qui est de Champagne-Saint-Hilaire dans la Vienne. Et Rémi, je crois que vous êtes assistant technique d'escrime, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors, en tout cas, on va jouer ensemble. On va jouer quoi ? À fleuret moucheté, alors, c'est ça, pour prendre une expression de votre discipline ?
On peut dire ça comme ça.
Ne soyez pas trop tranchant avec Isabelle, quand même.
On touche avec la pointe, donc ça risque d'être compliqué.
Soyez délicat, s'il vous plaît.
Ça marche.
Allez, on va démarrer tout de suite avec la question d'actualité. Et on commence avec cet extrait sonore que je vous laisse découvrir. Voilà, cette chanson date de 1994. C'est un extrait d'un album des Pink Floyd. Cette chanson s'appelle Keep Talking. Et pour son prochain album, justement, le groupe Pink Floyd a à nouveau fait appel à un très célèbre scientifique que l'on vient d'entendre dans cette chanson Keep Talking. Qui est ce scientifique ? On en a parlé dans l'actualité tout récemment. Vous avez 30 secondes pour nous donner votre réponse.
Et Stephen Hawking.
Stephen Hawking, Rémi, bonne réponse. Effectivement, vous connaissiez la chanson de 94 ou vous avez entendu parler de ce prochain album, Rémi ?
Je n'avais pas entendu en parler d'album, mais oui, Pink Floyd, on connaît. Ouais.
Voilà, donc on a vu la photo de Stephen Hawking qui retourne
en studio. Pour Pink Floyd.
Pour les Pink Floyd.
Ils ont fait à nouveau appel à lui pour leur prochain album qui sortira donc le 7 novembre prochain. Et la chanson portera d'ailleurs son nom puisqu'elle s'appellera Talking Hawking. Et on y entendra donc le célèbre physicien s'y exprimer par l'intermédiaire de son ordinateur. Je rappelle qu'il est atteint de la maladie de Charcot qui l'a malheureusement paralysé.
Voilà, donc Stephen Hawking bientôt dans l'album des Pink Floyd. Et ça fait 10 points.
10 points pour Rémi.
Pour Rémi. Isabelle, tout est possible bien sûr encore. J'entends un bébé derrière vous.
Oui, c'est ça, il y a un petit bébé.
C'est votre petit garçon, votre petite fille ?
Un petit garçon.
Eh bien, très bien. Bah, écoutez, j'espère que la science va l'inspirer plus tard. Il va peut-être pouvoir vous aider pour répondre à ces questions de rapidité.
Ouais, j'espère, parce que là, j'ai déjà du retard. Alors.
Elles sont au nombre de 7. On va aller le plus vite possible pour nourrir le petit dans un instant. 7 questions par ordre croissant de difficulté. Eh bien, si vous êtes prêts, nous lançons tout de suite le chrono. Comment s'appelle l'organe qui relie justement un bébé au placenta de sa maman ? Voilà, mais c'est Rémi qui a été le plus rapide. Comment nomme-t-on l'alignement de volcans qui entoure l'océan Pacifique ?
Le rift ?
Non. L'alignement de volcans au niveau de l'océan Pacifique ? Allez, on passe à la question suivante. Qui aurait eu 152 ans hier ?
Jeanne Calment.
Et qui est le co-inventeur du cinématographe ? Elle n'a pas tout fait, Jeanne Calment. Auguste Lumière, Isabelle, bonne réponse. À partir de quelle plante produit-on l'opium ?
Le coquelicot ?
Non, le pavot, Rémi, bonne réponse. Quel nom d'un célèbre physicien a pour anagramme « rien n'est établi » ? Alors, physicien extrêmement célèbre. Allez, donnez-moi un nom de physicien célèbre. À qui vous pensez spontanément ?
Albert Einstein.
Eh ben voilà, Rémi. Quel est le nom de l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle ?
Voilà.
Est-ce que vous connaissez cette étoile ? Qui vient d'un nom arabe qui signifie l'aigle en vol. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Allez, on passe à la 7e question. Quel alpiniste a réalisé pour la première fois l'ascension de l'Everest en solitaire ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est la dernière question, c'est la plus compliquée. Alors, on peut revenir à la 3e question. Vous aviez répondu à la 2e. Comment nomme-t-on l'alignement de volcans qui entourent l'océan Pacifique ?
Aucune idée.
La ceinture de feu. Voilà, c'était tout simple.
Ouais.
Alors, quel est le nom de l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle, Florence ?
Il s'agit d'Altaïr. Voilà, elle se situe à 17 années-lumière de nous.
La 12e étoile la plus brillante en partant de la gauche, pratiquement.
Presque.
Et puis, dernière question, quel alpiniste a réalisé pour la première fois l'ascension de l'Everest en solitaire ?
C'est Reinhold Messner. Voilà, et la première ascension de l'Everest en solitaire en 1980, exactement. Et c'est le premier à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres.
Son nom ne vous disait rien, apparemment, hein, Isabelle et Rémi. Bon, alors, on va faire le total des points.
Eh bien, nous avons 15 points pour Rémi et 5 points pour Isabelle, ce qui fait 25 points en tout pour Rémi.
On termine avec le mot mystère. Vous avez ce mot sous les yeux, nous vous l'avons transmis il y a quelques minutes juste avant de jouer. Est-ce que, Isabelle, vous voulez commencer ?
Oui.
En donnant votre définition donc à Rémi, et vous avez 45 secondes, on peut lancer le chrono. C'est parti.
Alors, c'est la partie superficielle de la peau.
L'épiderme.
Oui. Eh ben voilà.
Bravo.
Un coup d'épée dans l'épiderme, ça ne fait jamais de bien.
Ouais, ça ne fait jamais du bien, non, par contre.
Mais ça rapporte des points à Rémi.
Oui, 10 exactement.
Et ça, c'est parfait pour notre quiz. Rémi, maintenant, c'est à vous. On va voir si, là aussi, vous maniez bien l'épée pour nous faire découvrir votre mot mystère. 45 secondes, on vous écoute.
Alors, en fait, c'est un stade de développement chez le papillon.
Le cocon.
Y compris entre la larve et juste après la larve, le papillon...
C'est le petit cocon de soie, effectivement, voilà, Isabelle. Ça. Pardon ?
C'est ce que j'avais dit.
Oui, mais ça n'est pas la réponse. Il faut la préciser.
Et on dit aussi que c'est la nymphe.
C'est un stade particulier.
Ouais. Et où ça ressemble à un cocon, en fait, en dur, avec une carapace. Le papillon, il passe par ça, il se suspend, c'est suspendu, c'est accroché et...
Et ça sépare la chenille du papillon, pour vous aider. C'est c'est ce mot qui nous manque, Isabelle. Et que vous connaissez, évidemment.
Le ver ?
Pardon ?
Le ver ?
Non.
Il y a un album de musique de je ne sais plus quel artiste.
Ah bon ?
Ouais. Alors,
Chrysalide ?
Ouais.
Ah.
C'était la réponse dont nous avions besoin, Isabelle. Pourtant, le petit cocon de soie qu'on peut parfois observer dans la nature, eh ben c'était ça, tout simplement. Ouais. Bon, alors je crois que ce ne sera pas suffisant pour Isabelle pour prendre l'avantage.
Hélas, non, c'est donc Rémi qui remporte le jeu aujourd'hui. Toutes nos félicitations, Rémi.
Merci beaucoup.
Voilà, vous repartez donc avec la boîte de jeu La Tête au Carré des éditions Marabout pour jouer avec votre famille ou avec vos amis. Et vous repartez également avec le Grand Atlas géographique du monde des éditions Atlas.
Merci beaucoup.
Voilà, vous allez recevoir tout ça à Champagne-Saint-Hilaire bientôt. Et puis Isabelle, j'imagine que c'est le moment de vous occuper de votre petit, donc on va vous laisser, on ne va pas être trop long. Et on vous embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci
beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.